RFI 7h30 à Conakry, 9h30 à Khartoum et Paris. L'heure d'un nouveau journal avec Grégoire Morelli.
Un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue de leur dissolution au Mali. Le texte a été adopté hier en Conseil des ministres. C'était l'une des principales recommandations publiées lors des consultations avec les forces vives du pays. Les précisions dès le début de ce journal. Un tournant judiciaire sans précédent en République démocratique du Congo. La justice a en effet demandé au Sénat la levée d'immunité de Joseph Kabila, l'ancien président congolais qui fait face notamment à des accusations de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Au Gabon, les sanctions, c'est fini. L'Union africaine a suspendu hier celle qui visait le pays après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo en août 2023. L'UA justifie cette décision avançant que la transition était globalement réussie. Et puis, au Ghana, après être devenu le seul acheteur, vendeur et exportateur d'or, le gouvernement s'attaque désormais aux minerais produits par les grosses exploitations et veut acquérir 20% de tout l'or produit par les 9 grandes mines qui opèrent sur le sol ghanéen. Les précisions à venir. Au Mali, hier soir, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue donc de leur dissolution. C'était l'une des principales recommandations publiées mardi soir après les consultations avec les forces vives du pays. Consultations qui ont également recommandé l'élévation du général Assimi Goïta au rang de président de la République pour cinq années renouvelables, David Bachet.
Pas d'élection avant la pacification du pays, parce que l'échéance est floue, pour ne pas dire éloignée, avec un Mali en guerre depuis déjà près de 15 ans contre plusieurs groupes djihadistes et rebelles loin d'être affaiblis, le général Assimi Goïta est durablement installé à la tête de l'État. Il passe de président de la transition à président de la République, pour 5 années renouvelables, à compter de cette année. Les militaires putschistes avaient pris le pouvoir en 2020. Les organes installés depuis, comme le CNT, dont les membres choisis par les autorités font office de députés, restent également en place. La totalité des partis politiques existants doivent être dissous. Les conditions exigées pour en créer de nouveaux sont drastiques. Leurs financements publics sont supprimés, tout comme le statut de chef de file de l'opposition. Les chefs traditionnels ou religieux, ainsi que les membres de la société civile, ont interdiction de se présenter aux élections lorsque les autorités les jugeront possibles. Toutes ces recommandations doivent encore être officiellement validées par le général Assimi Goïta. Certaines nuances ne sont donc pas à exclure. Le premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, estime déjà pour sa part que ces propositions permettent au pays d'avancer.
David Bachet, un mot de la Guinée où le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, va quitter Conakry ce matin, pour une visite à 24 heures à Kigali, au Rwanda, à l'invitation de son homologue Paul Kagame. Selon un communiqué de la présidence guinéenne, le dirigeant guinéen et son hôte se rendront ensuite ensemble à Libreville pour assister à l'investiture de Brice Oligui Nguema, fraîchement élu président du Gabon. L'investiture aura lieu ce samedi. En République démocratique du Congo, un tournant judiciaire sans précédent. En effet, la justice du pays a officiellement transmis au Sénat une demande de levée d'immunité visant Joseph Kabila. L'ancien président est accusé de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel, ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le ministre de la Justice, qui attend l'autorisation du Sénat, soupçonne Joseph Kabila d'être l'un des cofondateurs du groupe armé AFC. Et les proches de l'ancien président dénoncent pour leur part une manœuvre politique. La correspondance de Patience Ligaudy.
C'est une série d'initiatives qui ciblent clairement Joseph Kabila et un acharnement selon son entourage. Mais pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, il ne s'agit pas de harcèlement. Il affirme que des preuves irréfutables ont été réunies contre l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie. Il l'accuse d'être impliqué dans les violences contre les civils dans l'est du pays et prévient « la justice ira jusqu'au bout, qu'il comparaisse ou non ». Et ce n'est pas tout. À RFI, le ministre a aussi confié que certains proches de Joseph Kabila seront visés par des poursuites avec saisie de biens et ouverture prochaine de procès. Cette offensive judiciaire s'inscrit dans un climat politique de plus en plus tendu. Il y a 2 semaines, les autorités ont perquisitionné l'une des concessions de Joseph Kabila à Kinshasa pendant au moins 4 jours. La semaine dernière, son épouse Marie-Olive Lembe dénonçait la présence des militaires sur leur ferme familiale du Haut-Katanga. Elle parle de violations, de saisies et même d'abattage de bétail sur place. Dernier signal en date, le gouvernement a suspendu les activités du PPRD, le parti fondé par Joseph Kabila, sur tout le territoire. Autant de signaux qui traduisent une confrontation désormais ouverte entre le pouvoir actuel et l'ancien président.
Nous sommes le 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Et à Madagascar, cette journée est comme chaque année décrétée fériée, chômée est payée à travers tout le pays, mais pour une minorité de la population, car pour les 8 actifs sur 10 qui travaillent dans le secteur informel, c'est une journée comme une autre. Pas question de se priver de revenus perçus au jour le jour. Et dans les villes malgaches où la crise de l'emploi s'est aggravée depuis la pandémie de Covid-19, selon la Banque mondiale, les travailleurs misent plus que jamais sur les opportunités offertes par l'informel, loin des carcans d'un emploi de bureau. Reportage de Pauline Le Troquier à Antananarive.
Les mains rivées sur le guidon, une dizaine de conducteurs de vélo-taxi ont fait de ce trottoir leur station du moment. Les bonjours, Ange peut espérer tirer 10 000 arrières, soit 2 euros de ses courses. Agent de sécurité le week-end, il slalome entre les bus et les véhicules de la ville la semaine et place beaucoup d'espoir dans ceux de roues.
Le vélo, c'est mon patrimoine, alors j'y tiens vraiment. Comme l'État n'a pas de travail à nous offrir, on le crée nous-mêmes. D'ailleurs, l'argent que je gagne ici, je l'épargne pour investir plus tard dans un taxi-moto et encore plus tard dans une voiture.
À même la rue, Émile code et manipule les smartphones les plus récents. Lui s'est lancé dans le déblocage mobile, un service qui permet de contourner les barrières d'utilisation imposées par des opérateurs mobiles. Ce travailleur s'est formé en ligne à l'aide de simples tutoriels.
Il ne faut rien attendre de l'État, car même avec un emploi formel, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais je pense que nous, malgaches, nous sommes forts, car nous sommes les champions de la débrouille.
Depuis le Covid-19 et ses effets dévastateurs sur l'emploi, le secteur informel n'a cessé de conforter sa place prédominante dans l'économie malgache. Une dynamique que la municipalité tente de maîtriser à tout prix dans la capitale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Au Gabon, alors que, on l'évoquait précédemment, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, arrivé au pouvoir après un coup d'État, prêtera serment ce samedi à la présidence. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé hier de lever l'ensemble des sanctions imposées au pays. La décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, en présence du ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga-Ndiaye, qui s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple gabonais.
C'est qu'avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision, de la plus grande importance pour notre pays, démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine-Corée du Sud, Union africaine-Japon, TICAD, Union africaine-Inde et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. Je saisis l'occasion pour réitérer nos remerciements à tous les États membres de l'Union africaine, à ceux de la CEAC qui ont accompagné le Gabon avec une bienveillance durant cette période de transition.
Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga-Ndiaye, propos recueillis à la télévision gabonaise par notre correspondant Yves-Laurent Gomin. Et peut-être l'avez-vous remarqué lors de la diffusion de cet extrait dans le journal de 6h30 à Libreville. Nous avons attribué par erreur ces propos à Herman Imongo, ancien ministre des Affaires étrangères. Toutes nos excuses. Au Ghana, à présent, je vous le disais, le gouvernement continue d'étendre son emprise sur le commerce de l'or au sein du pays. Après être devenu le seul acheteur, vendeur et exportateur de ce précieux minerai, extrait des mines artisanales et de petite taille, le premier exportateur d'or du continent s'attaque désormais aux minerais produits par les grosses exploitations. Un accord de principe allant en ce sens a été rendu public hier mercredi. Il prévoit l'acquisition de 20% de tout l'or produit par 9 des grandes mines qui opèrent sur le sol ghanéen. Une stratégie qui n'est cependant pas si nouvelle. Les explications depuis Accra avec notre correspondant Victor Cariou.
Augmenter les réserves d'or et accumuler les devises étrangères. Voici la stratégie présentée par Goldbod, le régulateur de l'or ghanéen, derrière ce nouvel accord de principe. Pour ce faire, le gouvernement pourra, dès le 1er juin 2025, acheter 1/5 de la production totale des 9 exploitations participantes, cela par le biais du CEDI, la monnaie nationale, et à un prix juste en dessous de celui du marché. De quoi, selon le régulateur, garder au Ghana une partie du doré qui part habituellement vers les raffineries étrangères, les retombées économiques attendues n'ont-elles pas encore été communiquées. Mais selon certains analystes, ce nouvel accord ne concernerait qu'une petite partie des mines de grande échelle opérant au Ghana. Plus, le programme ne serait en réalité que le prolongement d'une politique déjà mise en place par la précédente administration. La signature du nouvel accord devrait quant à elle être actée le jeudi 15 mai 2025. Victor Cariou, Accra, RFI.
On prend désormais la direction du Kenya. Hier soir, un député kényan a été abattu en pleine rue. Ça s'est passé dans la capitale Nairobi. Charles Ongondo Were a été tué par deux hommes qui circulaient à moto. Et les faits se sont déroulés en début de soirée, Vincent Dublange.
Il est environ 7h30 du soir dans le centre de Nairobi. Charles Ongondo Were circule en voiture, conduite par son chauffeur. Selon des témoins cités par la presse, et notamment Citizen TV qui a révélé l'information, le véhicule du député est alors pris pour cible par deux hommes à moto. L'un d'eux descend et tire sur l'élu à bout portant. D'après The Nation, Charles Were est conduit à l'hôpital de la capitale kényane, mais il succombe à ses blessures. Le président de l'Assemblée nationale du Kenya évoque un choc profond, une tristesse indicible. Charles Were était membre du parti de Raila Odinga, il était député d'une zone rurale de l'ouest du pays, non loin du lac Victoria. Le quotidien The Nation affirme que la direction des investigations criminelles a ouvert une enquête. Un proche du défunt évoque face à la presse une montée de la violence dans la politique locale du comté dont Charles Were était le député. Le responsable du crime est connu, ajoute cette proche, des déclarations qui demeurent encore à éclaircir ce jeudi matin.
Vincent Dublange, pour toutes ces précisions, la police évoquait un acte prémédité. Un mot également concernant Taïwan. L'île proteste en effet et dénonce une restriction de la liberté d'aller et venir après la décision de la Somalie qui vient d'interdire justement aux ressortissants taïwanais l'entrée sur son territoire. Les autorités taïwanaises parlent d'une décision prise à l'instigation de la Chine et réclament la révocation de ces mesures. Voilà donc pour l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivi. Le prochain journal, ce sera d'ici une vingtaine de minutes consacré à l'actualité internationale. Mais vous le savez, d'ici là, l'information continue en tout temps, en tout lieu sur notre site RFI.fr et également sur notre application Pure Radio.
Merci Grégoire Morelli. Il est bientôt 9h42 ici à Paris.